Quatre invités avec Apollinaire, sa biographe Laurence Campa signe un premier roman dans le fracas de la Grande Guerre, le baryton Stéphane Degout et le pianiste Cédric Tiberghien s'en remettent à sa voix mise en musique par Poulenc, tandis que l'éditeur Grégory Voix ranime son bestiaire.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Laurence Campa, Grégory Voix, Stéphane Degout et Cédric Tiberghien, bonjour, bienvenue à tous les quatre. Une émission hantée, on peut le dire, par la figure de Guillaume Apollinaire, tout comme vous, Laurence Campa, du moins jusqu'ici. Professeur de littérature, il y a eu une esthétique Apollinaire, ça c'était pour commencer en 1996, une passion Apollinaire, l'édition des lettres à Madeleine, des lettres à Lou, de la correspondance avec les artistes, avec le marchand d'art Paul Guillaume, une extraordinaire biographie chez Gallimard, et j'en oublie certainement, et j'ajoute néanmoins quelques infidélités côté Jacques Vacher, Maurice Genevoix et Blaise Cendrars, l'ami et le rival. Et aujourd'hui, un premier roman, Colombe sous la lune, paru chez Stock, roman de feu, de tranchées et de canons, en dette avec Shakespeare, mais aussi avec la littérature de la Grande Guerre, et en cherchant bien, et on a cherché avec Apollinaire. Et comme ça tombe bien, l'album Histoire naturelle, qui paraît sous le label B Records, met à son programme très français des mélodies de Francis Poulenc, composées pour ou avec des poèmes d'Apollinaire, soit l'histoire fidèle, elle aussi d'une entente de 30 ans, plus de 30 ans même, entre un compositeur et une voix. Un programme enregistré à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet avec Stéphane Degout, baryton, et Cédric Tiberghien au piano. Il y a là des calligrammes, Montparnasse, Hyde Park et même 6 des 30 animaux du bestiaire qu'Apollinaire publia en 1911 avec des gravures sur bois de Raoul Dufy. Et comme ça tombe décidément très bien, c'est ce même bestiaire illustré avec dromadaires, chèvres du Tibet, écrevisses, carpes et dauphins que vous rééditez, Grégory Voix, dans son format original aux éditions Prairial, jeune maison qui compte déjà son catalogue quelques fous littéraires, parmi lesquels Jean-Pierre Brisset, mais aussi quelques libertaires, mais aussi quelques membres éminents du grand jeu, mais aussi quelques-uns des surréalistes versants énervés.
Watching by the poplars, Colinette with the sea blue eyes. She is watching and longing and waiting where the long white roadway lies. And the song starts in the silence at the winding of the boughs above. She listens and starts and prays. For a little song of love. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our paths may be far apart. But there's one rose that dies not in Picardy, 'tis the rose that I keep in my heart. Roses are shining in Picardy.
Ça craque un peu. La voix du grand ténor américain d'origine irlandaise John McCormack, un enregistrement de 1919, Roses of Picardy, qui est une chanson populaire, alors qui date de, je crois, de deux ans, enfin de 1917, hein,
1917.
Un petit peu avant ce qu'on vient d'entendre, diffusé sur le phonographe d'Eugène Thomas, convalescent à la fin de la Grande Guerre. Eugène Thomas, jeune héros de Colombe sous la lune. Le roman que vous signez aux éditions Stock, Laurence Campa, le roman d'un jeune soldat qui devance l'appel, par amour, et se jette, comme dans un demi-rêve, dans les tranchées, dans l'étoile de mer, dit-il, sur le front de la Somme. Un destin comme il y en a eu tant d'autres, j'imagine, comme vous en avez sans doute tant croisé dans vos travaux sur la littérature et la poésie de la Grande Guerre. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouviez envisager d'autres décors pour vous autoriser à écrire ?
Je crois qu'il faut le dire dans l'autre sens, en fait.
Alors,
je retourne la chose. C'est qu'en fait, ce roman que j'ai mis tant de temps à me décider à écrire, en fait, explique, pour, d'une certaine manière, de façon masquée, pourquoi j'ai passé autant de temps à faire de la recherche et à regarder de près ces hommes, ces poètes, ces écrivains accablés par l'histoire et par la violence et par la guerre. Ce qui me touche beaucoup chez, dans le destin de ces gens, c'est que c'était des jeunes gens, tout jeunes, et que on a tendance à l'oublier parce qu'on imagine toujours plutôt des vieilles personnes avec des drapeaux devant un monument aux morts. Mais ils étaient tout jeunes et ils sont passés directement de l'enfance à l'âge adulte de la manière la plus violente. Et ceux qui n'ont pas survécu n'ont jamais connu justement cet âge adulte. Et donc c'est ce passage de l'enfance à l'âge adulte qui me touchait particulièrement. Voilà. Je vous remercie d'avoir passé Rose of Picardy, parce qu'en fait, on n'est pas si loin d'Apollinaire, parce que dans un de ses poèmes, Le Chant de l'Horizon en Champagne, il dit « Car même les airs les plus entraînants ont quelque chose de déchirant quand on les entend à la guerre ». Et là, c'est un petit peu ce qui se passe justement dans toutes les chansons britanniques, pour le coup, dont il est question dans le roman. C'est qu'elles sont à la fois sentimentales et elles deviennent déchirantes parce qu'elles sont dans un contexte particulièrement violent et traumatique.
Qu'est-ce qu'il a fallu attendre, alors, Laurence Campa, justement, pour passer à l'écriture de ce roman ? Qu'il n'y ait plus de témoins, c'est une chose aussi, parce qu'on va en reparler, mais on a assisté aussi à, disons, une séquence en littérature française, une séquence assez riche en ce qui concerne la Grande Guerre, ou que vous ayez épuisé le moindre recoin de cette période, ou que vous en ayez fini avec Apollinaire, si vous en avez fini.
Il y a plusieurs réponses possibles. Il est évident que le recul temporel autorise des libertés que la présence des témoins n'autorisait pas tant que ça, parce que comme on n'avait pas vécu la chose, il était difficile d'avoir la prétention de se mettre à leur place. Donc il y avait cette espèce de domination du témoignage et puis d'une esthétique de type réaliste, en fait. Là, maintenant, on peut aussi larguer les amarres. C'est un livre qui est onirique. C'est un livre qui est comme un demi-songe. Il y a la demi-brume de la chanson du Mal-Aimé, mais là, c'est un demi-songe. Et donc, on a plus de liberté. Après, d'un point de vue personnel, non, j'ai certainement pas fini d'arpenter tous les recoins de cette guerre, mais j'y ai passé plusieurs années, et j'y passe encore beaucoup de temps. Et en fait, vous ne me posez pas la question, mais je vais y répondre quand même.
Je vous en prie.
Je ne me suis pas documentée pour écrire ce livre pendant 2 ans. En fait, toutes mes lectures avaient sédimenté. Tout ce que j'avais lu avant était là. Et tout a ressurgi quand j'en avais besoin pour le récit, pour les personnages. Et c'est une fois que j'ai fini, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas du tout contrôlées, maîtrisées, et qui étaient revenues à la surface, en fait. Et quand on parle d'Apollinaire à propos de ce livre, je réponds toujours aussi que c'est sans doute plus dans l'esprit que dans la lettre, hein, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de personnage qui lui ressemble, il n'y a pas de situation qui lui ressemble. Mais pour répondre aussi à votre question, en fait, je me suis demandé à quoi rêvent-ils tous, autant qu'ils étaient, à quoi rêvaient-ils Et donc, Colombe, c'est une réponse par la fiction à cette question. À quoi rêve-t-on quand on est dans une situation particulièrement contraignante, douloureuse, difficile, quand on a les pieds dans le réel et qu'on a la tête sous la lune? Voilà.
Pour vous, la Grande Guerre, ça n'est pas un cadre historique comme un autre?
Non, parce que cette guerre a des particularités. C'est aussi un livre sur l'attente, sur l'ennui, sur...
On regarde beaucoup le ciel.
On regarde beaucoup le ciel sur l'évasion, parce que c'est aussi une guerre de siège, c'est pas une guerre de mouvement. Donc on est souvent bloqué, en fait. Et pour moi, c'est un décor de tragédie. La Grande Guerre, à mon avis, ouvre un siècle tragique. Un 20e siècle est un siècle tragique. Et l'espace clos de l'étoile de mer et l'espace
confiné... L'étoile de mer qui est donc ce réseau de tranchées.
Ce réseau de tranchées un petit peu étrange, qui est un personnage à part entière du livre. Et l'espace, on va dire, un peu d'exception, l'espace clos du front aussi, hein, qui concentre autant d'hommes à la fois de part et d'autre, hein, de la ligne de feu. Pour moi, c'est aussi comme un espace tragique, comme l'espace des tragédies classiques. Il y a une espèce d'unité de lieu, en fait, qui donne une image, je trouve, assez à la fois terrifiante, fascinante Et aussi rassurante, assez ambivalente finalement, et de notre condition, et notre condition humaine, et de ce qui se passe, ce qui arrive au personnage.
Alors, puisqu'il est question de tragique.
Be not afeard. The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give delight and hurt not. Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears, and sometime voices that if I then had waked after long sleep will make me sleep again. And then in dreaming, the clouds methought would open and show riches ready to drop upon me, that when I waked, I cry to dream again.
L'acteur anglais Joe Finesse chuchotant le monologue de Caliban dans La Tempête de Shakespeare. C'est par là que vous commencez, Laurence Campa, votre roman, par les deux premiers vers. De quoi est fait ce lien? J'imagine que vous venez juste de répondre à la question, en fait.
Ce lien, c'est comme passer un pacte avec le lecteur. Le lecteur passe un pacte avec l'auteur ou avec le diable. Ça veut dire vous êtes dans une illusion. Vous êtes dans un espace qui est à la fois un espace de réel et un espace de rêve où les choses se confondent. Et Caliban, écoutant la flûte d'Ariel dans cette scène de la tempête, justement, cherche à vouloir s'endormir encore. Et il y a des personnages qui rêvent aussi, comme on prend un opium ou comme on boit un verre d'alcool fort, hein, on n'est pas si loin d'Apollinaire aussi, pour essayer d'oublier ou de se transporter dans un autre monde.
Pas de recherche, enfin en tout cas pas de recherche précisément effectuée pour ce roman, Laurence Campa, vous l'avez dit, donc pas de documentation, mais plutôt des sédiments de lecture. Et justement, à propos de ces lectures, parmi les récits publiés pendant la guerre et puis surtout dans l'immédiat après-guerre, quelles ont pu être les voix de ce qui est après tout une littérature à part entière, hein, mais quelles ont pu être les voix qui vous ont aidé à écrire, hein, d'une certaine façon, parmi ces sédiments? Est-ce que c'est plutôt du côté de Genevoix, de Dorgelès, de Barbus, de Sandrart?
Si je dois retrouver des choses qui m'ont parlé, certainement les poètes. C'est peut-être pour ça aussi que le rêve est aussi présent. Apollinaire, très certainement, d'une manière souvent involontaire. Les poètes anglais aussi, les poètes britanniques, les war poets. Isaac Rosenberg, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen. Mais il y a aussi Ernst Jünger, Georges Duhamel. Il y a un peu tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas directement liées à la guerre de 14. Il y a beaucoup de films, par exemple. De la musique aussi, et qui n'est pas du tout d'époque. En fait, ce qui était intéressant, c'était justement de ne pas écrire sous contrôle des documents. Ça a changé de la biographie d'Apollinaire. Mais c'était plutôt d'aller chercher aussi des choses inspirantes. Inspirantes et pas pour des questions factuelles. Inspirantes parce que je pouvais chercher tel climat, telle image, telle atmosphère. Et Shakespeare était très inspirant de ce point de vue-là. Notre vie est un songe, en quelque sorte. Et quand je disais tout à l'heure, attention, c'est une illusion, eh bien oui, c'est une sorte, ce roman, c'est une sorte de théâtre d'ombre. Et puis, des personnages qui ont une épaisseur, mais qui sont aussi un peu comme dans les lanternes magiques.
Donc aucune chance, alors évidemment moi je l'ai cherché, hein, dans le roman Apollinaire, je comprends bien que manifestement il n'était pas là, je l'ai cherché dans les tranchées, j'ai cherché une silhouette avec une pipe, à un moment donné je me suis dit il est peut-être là, ou l'un des personnages aussi qui souffre de l'absence d'une femme aimée, d'une amante artiste.
Et là pour le coup...
Aucune silhouette d'Apollinaire, oui, qui vienne hanter...
En fait, Colombe sous la lune, c'est quand même... une sorte de chanson du mal-aimé.
Vous voyez qu'il est là.
Oui, il est là, parce que après lui, il est difficile d'écrire une chanson du mal-aimé sans y penser. Et comme je disais, demi-brume, demi-songe. Donc il est là, mais il est là comme un air de musique, justement. Comme une réminiscence. Et certainement pas comme un personnage ou un thème.
Of the awakening. wasting water at the horizon clutch, using the kind of language that makes the sergeant blush. Oh, wouldn't join the army, that's what we all inquire. Don't we pity the poor civilian sitting around the fire? Oh, 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 it's a lovely war.
It's a Lovely War, une chanson britannique, une chanson de soldat. Alors, un peu anachronique, hein, parce qu'elle date de la toute fin du 19e siècle, donc on n'est pas tout à fait au même moment. Mais comme un écho possible à ce fameux vers, Adieu que la guerre est jolie, d'Apollinaire, bien sûr, le premier de l'Adieu du cavalier, un poème d'août 1915, qui est un poème de désillusion, on va dire, on va y revenir. Pourquoi tant de malentendus sur ce vers, Laurence Campin ?
Parce qu'on n'en a retenu que le début, on n'a jamais lu la fin du poème, tout simplement. Et comme vous le dites très bien, c'est un poème de la désillusion qui parle d'une femme cruelle et d'un cavalier qui meurt au bout du chemin et qui sait que sa mort est certaine. Alors vous voyez, là, c'est encore un lien entre Colombe et Apollinaire, pour le coup, puisque mon roman est aussi un livre sur les illusions perdues.
C'est ce que j'allais dire, hein, au fond, dans ce poème-là, dont on parle, désillusion, nostalgie, d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi beaucoup de retours sur les souvenirs de ce jeune homme. Et puis cette fatalité amoureuse, on trouve tout ça dans ce poème d'Apollinaire, au fond. Au fond, il est là, Apollinaire.
Sauf qu'on a lu que le début, et donc, d'une certaine manière, on a considéré qu'il fallait le prendre au pied de la lettre, alors que l'ensemble est assez désillusionné, tragique et ironique aussi. Et cette chanson de soldat, qui est une chanson plutôt entraînante, parce que les soldats avaient aussi besoin de chansons un peu gaies pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire, est prise, je pense, ça doit être certainement une des sources, une des influences d'Apollinaire, est prise par le poète de façon tout à fait ironique, parce que lui, il sait très bien ce qui va se passer après. Donc c'est une ironie presque tragique.
Qu'est-ce que la guerre a finalement fait au poète Apollinaire ? Alors, j'imagine la question est un petit peu vaste, hein, mais alors je ne parle pas de l'éclat d'obus qui va trouver son casque en mars 1916, mais de son retour, de l'après-guerre, des quelques mois qui lui restent avant d'être emporté par la grippe espagnole. Quel est le poète qui revient de la guerre ?
À coup sûr, ce n'est pas le même, parce que de toute façon, on ne revient d'une certaine manière jamais de la guerre. Quand on en revient tellement changé, tellement vieilli. Et c'est ce qui se passe pour lui. En fait, il s'assombrit. Comme la plupart de ces jeunes gens, même si lui était déjà plus vieux que les autres, hein, était d'une génération précédente, il a un peu vieilli d'un coup. Et donc, il s'aperçoit que les places sont prises à Paris, que des jeunes sont en train de pousser.
Il s'est passé beaucoup de choses pendant la guerre.
Il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'il était absent. Et donc, il doit vraiment multiplier les activités, déployer de l'énergie, alors qu'il en a quand même beaucoup moins, puisqu'il a été blessé très gravement et très pané, pour essayer de revenir sur la scène artistique et s'imposer à nouveau. Donc, même si les jeunes se tournent vers lui, Breton, Soupeau, Aragon, et qu'ils le considèrent comme un maître, avec des non-dits qui sont quand même assez lourd, mais on ne va pas en parler, ça nous mènerait trop loin. Il a quand même besoin de s'imposer. Et donc son inspiration, elle est à la fois... elle continue à être assez solaire, et en même temps, il a l'impression qu'il doit aussi porter quelque chose de la poésie de l'avenir, sans uniquement être endeuillé par la mort de ses amis, par tous ceux qui jonchent les champs de bataille. Donc forcément, il a évolué. Alors après, les mauvaises langues, comme Jules Romain, ont dit qu'il s'en était jamais remis, qu'il n'avait jamais retrouvé exactement son inspiration d'alors. Je crois qu'il avait beaucoup de ressources et que simplement il a dû s'adapter, il a dû changer, mais surtout il n'a jamais perdu le désir très fort. Il y a un poème de 1917 qui parle justement de cela. Il dit la grande force est le désir, hein, c'est dans les collines, le désir d'aller plus loin, d'avancer, de continuer malgré tout.
Est-ce que ça veut dire que dans ses derniers poèmes, ou enfin ses derniers, il y en aura quand même encore pas mal, hein, quand il revient de la guerre, plus les calligrammes, est-ce que cette énergie dont vous parlez, Laurence Campin, c'est une énergie qui est chargée de cette inquiétude, c'est-à-dire cette inquiétude de voir qu'au fond, les choses ont changé, que des petits jeunes sont arrivés, que...
Oui, c'est pas simplement le mouvement une question de stratégie personnelle.
Non, non, mais même existentielle, je veux dire. Absolument. Est-ce qu'il y a cette inquiétude-là dans ce qu'il va produire ?
Bon, de toute façon, c'est un inquiet, vraiment au sens étymologique du terme. C'est quelqu'un qui a toujours cherché la stabilité pour contrecarrer justement son inquiétude native, naturelle. Mais il est évident que l'expérience de la guerre et puis justement ce qui se passe à Paris... autour de lui lui demande aussi beaucoup d'énergie pour essayer de contrecarrer, de contrebalancer, de compenser cette inquiétude qui grandit en fait. C'est-à-dire que les choses s'assombrissent, se contrastent, peut-être encore plus qu'avant finalement. Et donc les mamelles de Tirésia sont ce côté solaire, un peu loufoque, et en même temps avec cette inquiétude justement sur le devenir. On se moque beaucoup de ça en disant que c'est vraiment un drame de circonstance sur la repopulation, il faut faire des enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut créer, il faut faire l'amour, il faut continuer en fait, et c'est surtout ça le message. C'est un message de fécondité au sens large du terme, avant d'être un message politique et idéologique, même si ça l'est aussi.
Tout le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le front de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demain.
Une fois encore, pardon, ça devient une habitude dans cette émission, le fameux enregistrement de 1913 à la Sorbonne, donc la voix déclamante hein, d'Apollinaire, qui n'est sans doute pas la voix avec laquelle il s'exprimait ou avec laquelle il disait ou lisait ses poèmes dans d'autres circonstances, hein, puisque là on est dans un contexte quasi scientifique, déclamant donc son pont Mirabeau, un enregistrement placé en amorce de l'album Histoire naturelle, qui paraît sous le label B Records. Un programme Poulenc-Apollinaire, suivi d'un programme Ravel, Histoire naturelle, sur les mots de Jules de Renard et chanson Madécas. Quelles indications ou quelles clés, je ne sais pas si ça vous en a donné, un tel enregistrement a pu vous donner, et je m'adresse aussi bien au chanteur, hein, au baryton Stéphane Degout, qu'au pianiste Cédric Thiberguien, parce que cette histoire de voix touche au fond l'un et l'autre.
Cette voix, c'est d'abord Poulenc qui l'évoque dans une lettre, où il dit qu'il a eu la chance, étant jeune, de rencontrer Apollinaire peu de temps avant sa mort, et il se souvenait, quand il a commencé à écrire des mélodies sur les poèmes d'Apollinaire, il se souvenait du ton de cette voix, et il disait qu'elle était faite de joie et de mélancolie mêlées, et qu'il essayait de, non pas de restituer la mélodie naturelle de cette voix, mais en tout cas de s'en inspirer pour écrire ses mélodies. Et il se trouve effectivement que dans le catalogue des mélodies de Poulenc, l'écriture des mélodies sur les poèmes d'Apollinaire est assez... je dirais pas spécifique, mais elle a quelque chose de très plus personnel, plus marqué.
Par rapport à ses autres compositions sur d'autres poètes, parce qu'il a essentiellement d'ailleurs composé des mélodies à partir de poèmes.
Oui, complètement.
Et qu'il avait connu.
Et ayant ça en tête, et l'enregistrement que j'ai découvert par hasard dans une librairie de vieux disques à Amsterdam.
L'enregistrement de 1913,
oui, je ne le connaissais pas avant, et il se trouve que j'étais à Amsterdam il y a un an, et que dans cette librairie, j'ai trouvé un enregistrement qui avait été édité en 1968 en hommage à Apollinaire pour les 50 ans de son décès chez Hadès. Et il y avait toute une série d'émissions de radio, de poèmes qui étaient lus par d'autres acteurs, etc., dont ce petit enregistrement. Et ça m'a beaucoup touché, j'en ai parlé à Cédric, et on s'est dit, il faut que cet enregistrement apparaisse dans le programme du concert et sur le disque.
Alors justement, vous l'avez évoqué à l'instant, Stéphane Degout, mais pour Poulenc, c'était très très important que d'avoir dans l'oreille encore ou d'avoir en mémoire la voix d'Apollinaire, qu'il ne connaissait pas très bien, qu'il avait dû rencontrer une dizaine de fois. Je crois qu'il a dîné un soir avec lui, il me semble. Je parle sous le sous l'autorité de Laurence Campa, parce qu'il me semble
que vous le
suggérez. Je crois que sa passion pour Apollinaire date de son adolescence. Il devait avoir 13-14 ans déjà quand il s'est intéressé à Apollinaire. Et où Poulenc expliquait, je pense que c'est un point essentiel pour un musicien qui ne veut pas trahir un poète, que d'avoir entendu le son de sa voix. Alors justement, cet intérêt pour la voix, qu'est-ce qu'il en reste dans la composition à proprement parler? Parce que finalement, on a le sentiment, Cédric Tiberghien, on a le sentiment que c'est au moins autant le timbre et la voix d'Apollinaire qui va le faire écrire que le texte à proprement parler, même si Poulenc était tout à fait averti et très savant en ce qui concerne la poésie d'Apollinaire.
Il est certain que dans l'écriture de Poulenc, il y a de nombreux éléments. Il y a la ligne vocale, sa façon d'écrire vraiment simplement pour la voix, mais il y a l'usage du piano qu'il fait, qui est un usage qui est souvent quand même cantonné à une forme d'accompagnement, mais une mise en valeur de la voix. Et c'est une mise en valeur qui prend des formes très très différentes, qui peut prendre des formes au travers de l'harmonie, par exemple. Il peut y avoir des harmonies extraordinairement riches, donc qui vont essayer de montrer plutôt des aspects, peut-être, ou de la poésie d'Apollinaire, qui était peut-être un petit peu plus lyrique. Et puis, il va y avoir les moments où ça va être beaucoup plus froid, voire cynique, où on va se retrouver devant peut-être la voix brute, en quelque sorte, d'Apollinaire. Et c'est très, très intéressant de voir les indications, même qu'il met sur la partition, sans expression, ou au contraire avec une expression grandissante. Il y a vraiment des moments où il insiste beaucoup sur cette idée d'aller chercher très très loin, et ça c'est presque naturel dans l'écriture, son usage des pédales, où il est dit à certains moments « pas de pédales », donc ça doit être presque nu en quelque sorte, et puis des moments où il dit « ça doit être baigné de pédales », où on doit ressentir le bonheur finalement qu'il devait avoir à la lecture de ces poèmes d'Apollinaire.
On en écoute un extrait.
Des voix de femme comme si elles étaient mortes, même dans le souvenir. C'est vous, je sais qu'il plaît, merveilleuse rencontre de ma vie aux gouttelettes. Et ces nuages cabrés se prennent à l'énigme, tout à l'univers.
Il pleut, fameux calligramme qui dessine la pluie en même temps qu'il l'a dit. Ce truc, disait Maurras, à propos des calligrammes d'Apollinaire.
C'est pas avant-gardiste.
Sans nul doute. Oui, j'imagine. Vous avez parlé, Cédric Tiberghien, des indications que pouvait donner Poulenc. Qu'est-ce que la voix de Stéphane Degout, puisque c'est bien avec lui que vous interprétez ces poèmes et ces mélodies de Poulenc, qu'est-ce que sa voix appelle dans l'interprétation au piano, vous qui dites vous être fondu dans sa voix?
Oh, ça c'est difficile à définir avec des mots, parce que ça passe en fait presque de l'oreille au cœur, au doigt, sans quelquefois passer par le cerveau. Alors évidemment, bon, la voix de Stéphane est très riche, ça c'est sûr, c'est une voix qui a un spectre, je trouve, harmonique extrêmement large et qui nécessite que le spectre harmonique au piano soit très large. Donc quand je joue avec Stéphane, j'ai jamais l'impression par exemple de devoir me retenir ou de devoir me brider en quelque sorte. J'ai l'impression de pouvoir laisser le piano parler d'une façon complète, avec toute sa richesse. Et ça c'est quelque chose qui pour un pianiste évidemment est plutôt agréable.
Quelles sont les indications de Poulenc, justement, pour la voix? Parce que le danger, j'imagine, Stéphane Degout, c'est aussi, alors on va en parler peut-être plus précisément pour le bestiaire, mais de jouer le poème, et en tout cas de jouer jusqu'où le jouer, ou pire encore, de se laisser embarquer par éventuellement le côté un peu ludique, ou par l'ironie, ce qui, oui, oui. Alors, j'imagine, il y a des indications devait terroriser Poulenc.
De partition, de tempo, de nuance, etc., de respiration même, dont on tient compte naturellement, mais avec une certaine liberté aussi. Et puis il y a aussi les indications plus subjectives que Poulenc écrivait dans des lettres ou dans des discussions qu'il avait à propos de son travail. Et notamment, vous parliez d'ironie dans les poèmes d'Apollinaire, Poulenc l'interdisait, la refusait. Il disait que ces six petits animaux du bestiaire étaient, au contraire, qu'il fallait respecter ce qu'Apollinaire en disait, le côté pince sans rire, c'est pas l'ironie, il faut pas les jouer, ces animaux. C'est la même chose avec les histoires naturelles de Ravel, d'ailleurs. Il faut les montrer, il faut les décrire, mais pas les jouer.
Ça passe par quoi, alors, dans la diction?
Ça passe par un respect du texte très scrupuleux et aussi un peu de recul, un peu de détachement.
Est-ce que ça passe aussi beaucoup par la lecture? Est-ce que vous avez eu besoin de lire ces poèmes beaucoup avant que de les chanter?
Oui, alors ça, c'est ma préparation personnelle. Après, d'une façon plus générale, j'aborde toujours les choses par le texte. Une lecture simple, froide, sans la musique. Et ensuite, voir comment la musique transforme ce texte.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Dans votre biographie d'Apollinaire parue chez Gallimard, Laurence Campa, vous revenez sur cette passion de Poulenc pour le poète depuis l'âge de 13 ans, sur un fameux dîner avec lui en 1918, à l'époque où Poulenc fréquente le siège de Cocteau. Poulenc, écrivez-vous, se souviendrait toujours de cette rencontre, de la cascade d'idées qui s'échappait d'Apollinaire avec une prodigalité de nabab, du grand rire qui secouait son imposante stature, mais aussi de cet effet de surimpression qui voilait son sourire de mélancolie et son ironie de tendresse. Il y avait surtout, ajoutez-vous, ce timbre sourd et doux, triste et gai que les mélodies de Poulenc rendaient si sensibles. Qu'est-ce qu'on sait, Laurence Campa, de la voix d'Apollinaire? Parce qu'au fond, ce qu'on a entendu tout à l'heure, ça n'est pas véritablement la voix d'Apollinaire, là, sa façon de déclamer ce poème. Qu'est-ce qu'on sait de sa voix, de son éloquence, de son timbre, de sa langue, de sa diction, de la façon dont il prenait la parole?
On disait qu'il avait une voix assez douce, en fait. Mais je crois que c'était un peu comme sa poésie, comme lui-même. C'est-à-dire cet effet de contraste, cet effet de passage brusque, de passage de mélancolique. Et puis, ça pouvait alterner avec des moments très crus, très grossiers. Il aimait bien ça aussi. Et je crois qu'en fait, Poulenc aimait ça parce que je crois me souvenir qu'il a dit un jour, peut-être c'était quand, je sais plus à quelle occasion, « Apollinaire, c'est fait pour moi ». C'était à la fois le côté canaille et le côté lyrique. Et je crois qu'il aimait bien cette... C'est pour ça que je parle de surimpression, je sais plus comment j'ai utilisé comme formule. Comme si il y avait une sorte de superposition entre plusieurs personnages avec une espèce de flou, de tremblé, qui fait que... on sait jamais exactement, finalement, où on se situe, si on est censé commencer à sourire. Et je trouve que Poulenc a vraiment eu cette subtilité-là aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord... Et c'est ça qui est touchant. C'est ça qui est touchant. Et je le disais tout à l'heure en montant l'escalier pour venir dans votre studio, Manu, qu'il y a même dans le cas d'un poème qui s'appelle Aussi bien que les cigales, c'est même Poulenc qui m'a fait comprendre le sens du texte, ou plutôt non pas comprendre, mais sentir le sens du texte. Un texte que je trouvais très mystérieux, très énigmatique. Et un jour, j'ai écouté la mélodie de Poulenc. Et il y a cette espèce de point d'orgue, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, la joie adorable de la paix solaire. Et là, je me suis dit, mais oui, bien sûr, par rapport au reste, ça contraste très bien, c'est parfait. Et donc, pour ça, Poulenc est magique. Je crois qu'il nous le fait très, très bien sentir.
Ouais. Alors, Éluard, au fond, ne dit rien d'autre que ce que vous êtes en train de dire, qui a pu écrire « Francis, je ne m'écoutais pas. Francis, je te dois de m'entendre. Ouais. » C'est ce que disait, en tout cas, Éluard, à propos des compositions de Poulenc sur ses propres poèmes. Qu'est-ce que Apollinaire aurait pu penser de ces mélodies-là, de Poulenc, Laurence Campa, par exemple. Je me vois inquiet. Je vais demander à Laurence Campa d'abord.
Aucune idée.
Je veux dire, quel était le lien, au fond, d'Apollinaire à la musique? Parce que, voilà, évidemment, on connaît
plutôt la musique populaire. Il n'était pas très versé dans la musique
savante. Vous en soupirez.
Oui, parce que j'ai beaucoup, pendant 8 ans, quand j'ai écrit cette biographie, j'ai vu beaucoup de peintures, j'ai vu beaucoup de sculptures, de la photographie, du cinéma, mais j'ai pas écouté beaucoup de musique. J'ai pas écouté beaucoup de musique par lui, je veux dire. Par ailleurs, j'ai écrit en musique, donc ça c'est autre chose. D'ailleurs, une musique qu'il aimait pas du tout, mais il disait que ça l'ennuyait. On sait qu'il est allé écouter Parsifal quand ça a été représenté à Paris pour les premières fois à l'Opéra en janvier 14, mais visiblement il serait parti avant la fin. Il disait lui-même, je crois que c'était un petit peu de la provocation aussi, parce qu'il y avait parfois des mélodies de Schubert qu'il aimait bien, d'après mes souvenirs. Je crois qu'en fait, il disait que ça lui faisait penser à autre chose, ce qui est pas mal finalement, la musique le faisait penser à autre chose. Mais du coup, il n'était pas vraiment attentif. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si il a été mis en musique savante, populaire, rock, jusqu'à aujourd'hui en fait.
Puisque vous évoquez Schubert, je crois que Poulenc demandait à ce que, au fond, on chante son Apollinaire comme du Schubert. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane Degout?
Je dirais qu'il voulait qu'on chante sa musique le plus simplement possible. Parce que Schubert, ça ne souffre aucun artifice. Si on est dans la construction, si on est dans l'interprétation, on est sur la mauvaise voie. Et si on respecte exactement ce qui est écrit, à la fois du texte, des notes, du rythme, etc., on se rapproche d'une espèce d'idéal, presque, de ce qu'on peut imaginer que Schubert aurait aimé. Et c'est la même chose avec Poulenc. C'est une musique qui pourrait laisser la place à beaucoup de choses un peu fausses, un peu fabriquées. Parce qu'il y a cette matière, on peut se permettre de la tirer dans tous les sens. Mais le plus simple, on l'a fait, le mieux c'est, je crois. À la fois pour nous, interprètes, que pour les oreilles qui l'entendent.
Quand Poulenc dit « pas d'ironie », en tout cas dans l'interprétation, du chant, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose au piano, Cédric Tiberghien ?
Absence d'ironie, je crois qu'il l'entendait dans le sens, effectivement, ne pas chercher à peut-être surjouer ou vouloir rendre trop de nature, finalement, dans l'accompagnement, mais que l'accompagnement, finalement, devait se fondre complètement avec la voix.
Alors, on écoute un deuxième extrait de cet album. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. L'écrevisse, donc un extrait du Bestiaire mis en musique par le jeune Francis Poulenc, hein, parce qu'il est très jeune à ce moment-là, je crois qu'il a à peine 20 ans, puisque c'est en 1918, je pense, qu'il commence à les composer. Au chant, donc toujours Stéphane Degout, piano Cédric Tiberghien, toujours sous le label B Records, et le balcon. Ce Bestiaire, donc, qu'il va composer en 1918, qu'il va faire entendre pour la première fois en 1919, qu'est-ce qui s'annonce déjà dans cette pièce, toute jeune, hein, puisque, alors il a déjà composé avant, un petit peu quand même, il a déjà été même repéré par Stravinsky, je crois. Qu'est-ce qui s'annonce déjà dans ces toutes petites pièces du tout jeune Poulenc?
Je dirais la précision du trait, en fait. On a le sentiment que, par la brièveté des poèmes, il est obligé, d'une certaine façon, d'aller directement au cœur du sujet, sans l'enrober, sans le présenter, sans le maquiller. Et c'est vrai que la partie de piano est d'une simplicité vraiment déconcertante. C'est la première fois qu'on a ça, mais même pour le travailler...
C'est difficile à jouer, du coup.
Non, à jouer, non. Techniquement, non, bien sûr.
Je veux dire, cette simplicité, est-ce qu'elle est difficile?
Voilà, et finalement, même à préparer et à travailler, il y a très peu de difficultés de mise en place avec la voix. Et donc... pour le travailler, c'est presque finalement de retirer les choses. La première fois qu'on joue et se dire, mais finalement, il faut venir au cœur brut et d'essayer de trouver, de retrouver la justesse du trait qu'il y a à la fois dans le texte et dans la musique.
Le bestiaire ou cortège d'Orphée, c'est donc le premier recueil que publie Apollinaire en mars 1911. 30 quatrains, tortues, poulpes, sauterelles, colombes, je l'ai dit dans le désordre, c'est très mal, alors que tout ça est extrêmement précisément organisé. Bœuf, hibou, portrait, poème illustré de gravure sur bois de Raoul Dufy. D'abord paru chez De Planche avec un très médiocre succès, je crois, et puis que vous rééditez aujourd'hui. Grégory Voix, dans son format original, c'est-à-dire grand format, 33 par 25, c'est un assez grand livre, parce que ça a été republié très vite après, en 1919, je crois, mais dans un format beaucoup plus petit. Mm-hmm. Pourquoi le rééditer aujourd'hui ?
Eh bien, pour la raison qui fait que nous sommes tous autour de cette table, pour la modernité d'Apollinaire, enfin, ce qui nous semble à nous la modernité d'Apollinaire, la modernité de son écriture, de ses vers, et puis aussi l'intérêt pour les gravures de Raoul Dufy, qui sont elles-mêmes assez, même si elles s'inspirent du Moyen-Âge et des bestiaires de la Renaissance, assez modernes. On peut voir un Orphée avec une tour Eiffel ou des bateaux à vapeur dans ses gravures. C'est ce qui nous intéresse, et c'est aussi en lien avec notre catalogue qui est autour du surréalisme, pas le surréalisme dogmatique d'André Breton, mais un surréalisme plus large. Voilà.
Ces gravures de Dufy dont vous parlez, Grégory Voix, dont Apollinaire lui-même a pu dire qu'il s'agissait de machin de Dufy dans une lettre qu'il envoie à Picasso, je crois, il me semble.
Parce qu'il était déçu.
Parce qu'il devait faire ce projet-là avec Picasso. Bon,
mais c'est ça. Marie-Laurencin dit que Apollinaire a écrit tous ses quatrains en pensant à Picasso et pour Picasso. D'ailleurs, on a encore quelques dessins de Picasso au trait qui sont très beaux.
Des dessins unilinéaires qui sont très beaux.
Qui sont vraiment très beaux, très fins.
Pourquoi Picasso abandonne-t-il le projet ?
Je crois qu'il avait autre chose à faire.
Oui, c'est ça, à un moment donné. Voilà. Mais Dufy accepte de reprendre ce projet. En effet, c'est un peu différent de ce qui était à l'origine. D'ailleurs, dans les notes, c'est intéressant ce que vous disiez à propos du trait, puisque finalement, toute l'idée de ce bestiaire, c'était autour de la ligne. Alors, notamment parce que Picasso devait faire des dessins d'un seul trait, si je puis dire. Mais on retrouve malgré tout chez Dufy, et malgré la déception d'Apollinaire, on retrouve chez Dufy ce dessin au trait, puisque finalement ce sont des gravures sur bois au couteau, qui sont assez finement ciselées, un travail assez difficile d'ailleurs quand on y pense. Mais on retrouve aussi cette question du trait et cette question un peu de la lumière autour de ce trait.
Qu'est-ce que ces quatrains d'ailleurs, Laurence Campa, portent en eux de ce projet d'illustration ? Parce qu'au fond, ce projet est là dès le départ, dans l'écriture du bestiaire.
Il y a quelque chose de visuel, ne serait-ce que, effectivement, parce que le trait, c'est une forme de... La peinture, pour Apollinaire, est une forme de langage lumineux. Et en tant que poète solaire, il écrit des vers qui aussi... En plus, il fréquente à cette époque-là, il commence à fréquenter les Delaunay, etc. Donc, voir surgir la lumière d'un certain nombre de modes d'expression. Et ce sont des autoportraits. À partir des animaux, on parle de soi-même, et puis on se peint comme un poulpe qui jette son encre vers les cieux, ou comme un lièvre, une tortue, etc. Ou on peint la femme aimée avec des cheveux comme la chèvre du Tibet. Et donc tout ça est assez visuel, et ça, en fait, c'est quelque chose d'emblématique. Ça rappelle les emblèmes, les enluminures, et c'est vraiment, ça passe par là, en fait. Ça passe par ces sources d'inspiration médiévale dont vous venez de parler, et qui allient de toute façon la lettre et le trait. Avec ce format carré, tout à fait intéressant, parce que ce sont souvent des quatrains ou des quintiles, donc des strophes de 4 ou 5 vers, qui sont souvent des octosyllabes. Et donc, en fait, on a un format carré, comme si on essayait de faire soi-même une sorte de lettrine ou d'enluminure.
Quand Breton et Soupeau parlent de divertissement, à propos de ce bestiaire, est-ce qu'ils se trompent ?
Ça dépend ce qu'on entend par divertissement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors eux, j'imagine, ne le disaient pas de façon extrêmement positive.
Il y avait la première version du bestiaire. C'était pas le bestiaire ou le cortège d'Orphée. C'était une histoire de marchande et de bestiaire mondain. Et en effet, peut-être que dans le projet d'origine, il y avait...
La marchande est devenue Orphée.
Voilà, et la marchande est devenue Orphée. Dans le projet d'origine, il y avait peut-être plus l'accent sur cette question du divertissement. Et ensuite, je crois que le projet a mûri, n'est-ce pas ? La première version est parue dans la Phalange en 1908. Et en 1911, les choses ont un peu mûri pour Apollinaire. Et il se place un peu différemment. Le bestiaire mondain s'enrichit et Apollinaire se place sous le patronage d'Orphée. Avec sa lyre, n'est-ce pas, qui fait que d'ailleurs, voilà, ça rejoint encore la musique. C'est la lyre qui est faite avec une tortue, qui est une des illustrations du livre. Et donc, je pense que du côté divertissement, on passe à quelque chose qui est quand même plus personnel. Et comme disait Laurence Campa, voilà, Apollinaire parle de lui et Orphée, c'est aussi un peu lui, voilà.
Donc Breton, qui ne se trompe pas toujours. Donc Breton ne se trompe pas quand il parle d'Apollinaire en disant Apollinaire, le lyrisme en personne.
Mais non, voilà, en effet, on pourrait en demander aux deux personnes qui ont fait l'album, mais en effet, le lyrisme en personne, je crois que est-ce que c'est l'un des buts d'Apollinaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette dimension orphique chez Apollinaire. Oui.
En même temps, ce que dit Breton est un peu... une forme de réserve quand même, parce que ça veut dire que il le dit d'ailleurs dans le même entretien.
Il dit de lyrisme en personne qui traînait sur ses pas le cortège d'Orphée.
Voilà. Et c'était un peu pour lui, c'est le dernier poète avec un grand P, c'est-à-dire qu'il appartient quand même à un autre monde. Et il y a dans le bestiaire une inspiration antique qu'il devait sentir un petit peu la vieillerie, comme disait Aragon. Et donc c'est peut-être ça aussi, mais il le dit aussi à un moment où il a toujours admiré Apollinaire, mais il a aussi réglé des comptes. Et puis le suralisme et le personnage de Breton, c'est aussi comment rompre avec la poésie, avec un grand P, justement, avec le lyrisme, avec un grand L. Et c'est pour ça aussi, je pense, que Poulenc est très moderne de ce point de vue-là. Parce qu'il rompt avec une espèce de lyrisme un peu traditionnel, on va dire, ou de bel canto, je ne sais pas quoi, en restant dans la mélodie, mais vous en parlerez certainement mieux.
D'ailleurs, c'était Stéphane Debout. On lui reprochait ça. C'est le côté populaire de la musique.
Ah, voilà.
C'est quelque chose qu'on lui reprochait. On disait, c'est pas de la musique savante, c'est de la musique populaire, c'est une honte.
De mêler des influences comme ça qui auraient dû être étanches, enfin
oui,
hétéroses.
Voilà,
enfin,
presque.
Oui.
Mais il y a, Apollinaire appartient à la fin d'une période qui se finit en 18, avec la fin de la Grande Guerre et puis avec son décès. Et puis Poulenc, lui, c'est le chaînon qui va avec la suite, en tout cas d'un point de vue musical.
Cédric Thiberger, non ? Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, simplement par rapport à l'antique et à un compositeur, on va dire, ou un écrivain relié au passé, c'est curieux de voir justement comme Stravinsky, lui qui sera un compositeur complètement du XXe siècle, va justement se baser sur la musique ancienne avec toute la période néoclassique qu'il va utiliser, réutiliser et qu'il va même propulser comme une espèce de geste créateur fort. Je trouve que c'est très très intéressant justement de voir que c'est pas une idée qui était morte, mais qui allait encore exister pendant de nombreuses années.
Parce que ni les uns ni les autres ne voulaient faire table rase en fait.
Voilà. Surtout pas Apollinaire.
Et surtout pas Apollinaire.
Non.
Petite particularité, Apollinaire propose une variation graphique et symbolique autour du caractère delta pour identifier les éditions de planches. Donc pour ce bestiaire que vous rééditez aux éditions Prairial, Grégory Voix, il ajoute dans ce delta une licorne et ce qu'il souhaite comme devise de la maison, c'est le fameux J'émerveille de Guillaume Apollinaire. Pourquoi là ? Pourquoi pour ce projet-là ? Et qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce que Breton, même encore lui, décidément, prend beaucoup de place. Breton décrit comme étant le credo d'Apollinaire. Est-ce que c'est tout à fait vrai ? Voilà, c'est peut-être plutôt une question pour Laurence Campa. Qu'est-ce que c'est que cet émerveille ? Qu'est-ce qu'il dit d'Apollinaire ? Grégory Voix.
Oui, je parle sous le contrôle de Laurence Campa, évidemment.
On parle tous sous le contrôle de Laurence Campa.
Oui, je fais une confidence, je ne contrôle rien.
ce J'émerveille, je pense qu'il est en rapport avec la question de l'imaginaire qui quand même reste tout à fait au centre du travail d'Apollinaire. Voilà, c'est se rapprocher de la nature sans limiter. C'est tout l'esprit du bestiaire, c'est ce qu'on trouve dans la préface des Mamelles de Tirésiaste. Et voilà, et cette licorne vient assez bien illustrer, je trouve, ce rapport à l'imaginaire. qui ne cesse à travers dans l'œuvre d'Apollinaire d'exister, mais dans une dimension quand même très moderne. On parlait tout à l'heure de l'ironie, on en trouve des traces partout, mais avec une grande érudition, une grande culture quand même, et un mélange de mots savants dont on a parfois du mal à retrouver la trace, comme les mouches ganiques, et une certaine trivialité quotidienne du langage. Voilà. Je pense que c'est cette alliance-là qui fait sa modernité. Et...
Laurence Crampa, vous parlez hein, d'une disposition naturelle au merveilleux en ce qui concerne Apollinaire.
Oui, il n'y a pas que lui. oui, au merveilleux, mais entendu au sens médiéval du terme. C'est ainsi qu'il l'entendait, je crois. C'est-à-dire que la merveille, c'est un événement surnaturel qui échappe au sens, à l'entendement des hommes, mais qui peut être à la fois tout à fait bénéfique comme particulièrement terrifiant. Hein. C'est comme les fées au Moyen-Âge. C'est pas forcément des êtres très bénéfiques. Donc, y a toujours cette ambivalence, de toute façon. Et J'émerveille était la devise pour De Planche, et c'est devenu sa devise. C'est pas lui qui se l'est approprié, c'est que la postérité est breton notamment.
L'ont rattaché à lui
naturellement. En fait.
Alors au catalogue des éditions Prairial, Grégory voit ce bestiaire donc qui fait presque exception par son calme apparent dans votre catalogue, qui compte par exemple Les couilles enragées de Benjamin Perret, texte censuré de 1928, hein, finalement paru bien plus tard, je crois, au milieu des années 50, sous le titre Les rouilles encagées.
Oui.
Ça passait mieux. Ou encore Le clavecin de Diderot, de René Crevel, ou encore le pamphlet très enragé lui aussi de Lucien Laforge, ou La Belle France de Darien, paru en 1901, qui crucifie dans un même élan nationaliste, socialiste, catholique, riche, pauvre, militaire.
Oui,
catalogue libertaire sans doute, énervé un petit peu parfois, qui couvre surréalisme, grand jeu, mais aussi pataphysique, anarchisme, fou littéraire. Mm-hmm. Je pense notamment à Jean-Pierre Brisset, qui était le héros absolu de Marcel Duchamp. Quelle histoire ce catalogue prend-il en charge ?
On pourrait dire que c'est l'histoire du surréalisme enfiévré. Où nous, on en a voulu en tout cas, on a voulu faire de Prairial une maison telle qu'on l'indique, comme pour les révoltés, les délirants et les prophètes. Alors, ça serait cette histoire-là que nous aimerions prendre en charge, avec un fil rouge autour du surréalisme et de l'anarchisme. C'est un peu ça. Et vous n'avez pas cité aussi Max Ernst, qui lui est un peu moins énervé dans les collages de La Femme sans tête.
C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas cité.
Voilà.
Parce que ça ne rentrait pas dans mon catalogue.
Voilà, qui s'accompagne aussi, voilà, qui sont des collages, et des collages aussi de Kelvy, qui est l'un des premiers livres de collage, paru aussi en 1911, sous le titre de What a Life en Angleterre, voilà, même année que Le Bestiaire.
Première parution en 2014, hein, je pense, hein, c'est ça,
oui,
parce que vous avez commencé en 2014. La vie, la mort, le vide et le vent.
Roger Gilbert
Lecomte. Un recueil de poésie de Roger Gilbert Lecomte, hein, auteur du groupe Rémois Le Grand Jeu. Qu'est-ce que ce titre-là, puisque c'est le premier, venait dire des éditions Prairial, en tout cas de ce que les éditions voulaient défendre, hein. J'imagine que le premier fait valeur de manifeste.
Le premier fait valeur de manifeste, et il n'était pas seul, puisqu'il y a eu deux premiers. Darien est sorti la même année, en même temps. En fait, on a voulu, c'est les deux projets qui sont à l'origine de Prairial. Il y avait quand même cette idée de mettre à disposition des textes forts et parfois oubliés, mais surtout pas réédités, voilà, qu'on trouvait ou qu'on ne trouvait plus dans les librairies ou qu'on trouvait seulement dans les bibliothèques. Et c'est avec quelques amis, nous avons monté cette maison d'édition dans cet objectif-là. On avait tous des listes de livres qu'on ne trouvait plus, et un jour on s'est lancé en se disant que on allait le faire nous-mêmes. Et Roger Gilbert Lecomte tombait dans le domaine public à ce moment-là, et on a décidé par passion aussi d'en faire notre premier ouvrage avec La Belle France, qui lui n'était pas non plus disponible, pas bien édité en tout cas. Et donc ce sont ces deux textes-là assez plutôt enfiévrés, oui, en effet, plutôt virulents, qui ont été à l'origine de la maison. Ça nous donne un axe pour la suite, mais voilà, on ne se limite pas à ça, puisque pour 2018 on va plutôt faire de la bande dessinée, et Harakiri, on va rééditer Guy Pellart, qui les inédits qui sont dans Harakiri dans les années 69-70. Voilà.
Donc toujours un petit peu énervé malgré tout. Petite pépite, en 2016, vous avez édité le dictionnaire critique signé Georges Bataille, Michel Léris, Robert Desnos, Marcel Griol, avec A comme abattoir et C comme crachat.
Oui.
Un ouvrage vraiment remarquable, je dois le dire, une exception à vos règles, hein, puisqu'il s'agit d'une première publication qui n'est pas une réédition, mais qui est une publication qui rassemble des textes qui étaient parus dans la revue Document.
Voilà. Ça, tout à fait.
Une machine de guerre contre l'idéalisme, disait Bataille, hein, à propos de cette rubrique.
Qui s'oppose un peu à Breton et un peu au surréalisme, n'est-ce pas, Bataille. Voilà, on essaye de ne pas toujours aller dans le même sens.
Ah, ça veut dire que Breton n'y figurera jamais dans ce catalogue, hein. Une question.
Alors, oui, c'est une bonne question sur Breton. Je crois qu'il est Breton est bien réédité. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de choses qui pourraient faire partie de notre catalogue. Et Breton, alors, c'est un personnage un peu controversé. On en discutait hors micro, puisqu'on avait proposé, en effet, le passage de Breton à propos d'Apollinaire et de sa rencontre avec Apollinaire. Mais on peut lui reconnaître quand même une certaine vision dans la littérature de son temps et une attention portée à des auteurs qu'on aime. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui.
Pourquoi Pré-Réal, hein, pour l'esprit révolutionnaire ou pour la saison?
C'est le mois de la fécondité riante, oui, on parlait des lamelles de Tirésias tout à l'heure. Ça aurait pu plaire à Apollinaire et d'ailleurs, Apollinaire devait publier un recueil l'année républicaine qui, hélas, n'a pas été édité. On aurait été curieux de voir ce qu'il aurait pu dire de Pré-Réal. On trouve Vendémiaire qui clôt le recueil Alcool et on trouve Brumaire qui a changé de titre, qui devient Cortège. Aussi dans le recueil Alcool. Pré-Réal, pas uniquement pour le mois de la fécondité riante, aussi pour le calendrier révolutionnaire, en effet.
Laurence Campa, Grégory Voix, Stéphane Degout, Cédric Tiberghien, merci à tous les quatre. Hein, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
À bientôt.
Hein. À bientôt. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez si le poème Les Fagnes de Wallonie ont un rapport avec le moment où ils sont partis de Stavelot,
oui.
Où ils ont fui cet hôtel parce qu'ils n'avaient pas payé la facture?
Oui, c'est la même période.
Parce qu'il y a ce côté presque poésie du quotidien là, chez Apollinaire qui est vachement fort.
Et, oui, de toute façon, oui.
Qui le rend lyrique et merveilleux, mais c'est toujours des petites choses comme ça qu'il raconte. Et effectivement, dans sa fuite de Stavelot, on peut très bien imaginer qu'ils aient passé la nuit avec son frère à courir à travers les forêts pour rejoindre la prochaine gare, et qu'à un moment, ils s'arrêtent pour souffler. C'est exactement ce qu'il dit dans le poème. Tant de tristesse plénière prirent mon cœur aux fagnes désolées, quand là, j'ai reposé dans les sapinières le poids des kilomètres, pendant que râlaient les vents d'ouest. Bon, ça, c'est pour situer le décor.
Et alors, en travaillant sur l'édition de ce bestiaire, vous avez réécouté justement le bestiaire de Poulenc,
oui,
est-ce que ça vous a...
Oui, on l'a réécouté, mais... Après, on essaye de travailler dans une certaine fidélité. On essaye de travailler dans une certaine fidélité à l'édition d'origine. Donc,
si on parle tous
en même temps, ils enregistrent quelque chose.
Je pense que là, ça doit pas leur plaire parce qu'on parle tous ensemble.
Un petit peu.
En fait, on est en train de le saborder, on le fait exprès.
C'est de la polyphonie.
Mange des bruits de verre qui se collent.
Manu revient.
Ainsi de suite, c'est vendredi prochain même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Pierre Monteil pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Laurence Campa, Grégory Voix, Stéphane Degout et Cédric Thiberguien. Vous trouverez toutes les actualités des invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin pour sa méthode scientifique.